Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans les 7 secrets pour changer des situations impossibles. Amen. Et on aura le témoignage de frère Amine à la fin de cette réunion. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu dans 2 Rois. Frère Jacques, tu me prépares Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Amen, s'il te plaît. Dans 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 15, la Bible nous dit ceci. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 10 000 sigles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, dès que cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ?» Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a en Israël, qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira avec moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Et le fleuve de Damas et d'Albana et de Papa ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver, devenir pur? » Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler et dit, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-tu faire et qu'il t'a dit, « Lave-toi et tu seras pur. » Et il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains. Selon la parole de l'homme de Dieu, sa chair redevint comme la chair des jeunes enfants et il fut pur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés, le message de cet après-midi, nous allons parler de 7 secrets qui changeront toute situation difficile, impossible, que toi et moi, nous pouvons traverser. Quand le Seigneur m'a donné ce message, c'est pour dire, on pouvait même l'intituler « De l'impossible au possible ». Amen. C'est-à-dire que de l'impossible au possible. Comment rendre l'impossible possible? Amen. Bien aimé, je souhaite que tu retiennes ce message parce que ce message va te suivre tout au long de ta foi chrétienne. Et que tu te remémores de tous les secrets que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous révèle parce que ce message nous suit tous les jours de notre vie. Amen. Chacun de nous peut rencontrer à un moment ou à un autre une situation impossible. Ça peut être une maladie incurable. Ça peut être une situation de membre de notre famille. Ça peut être un mariage qui se détruit. Ça peut être des enfants qui deviennent rebelles. Ça peut être un ministère en difficulté et en déroute. Ça peut être des affaires en banque. Bien aimé, les situations impossibles nous guettent tout le temps. Ça peut être une révocation du travail. Ça peut être l'incapacité de réussir dans tout ce que tu entreprends. Mais la Bible est une provision pour nous. La Bible est une providence divine pour nous. Et chaque situation, le Seigneur a prévu des moyens pour s'en sortir. Dis amen. Dans toute situation où tu es, il y a des moyens pour t'en sortir à condition que tu les connaisses, à condition que tu saches les mettre en pratique. Dans le cas de ce passage, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Naaman. Naaman, la Bible nous dit qu'il était un général de l'armée de Syrie. Cet homme était très considéré par son maître. Cet homme était un vaillant, donc considéré par son maître. Mais malgré tout ce que Naaman avait, Naaman était en face d'une situation humainement impossible. Tu es avec moi ce soir? Tu es avec moi ce soir? Tu es avec moi ce soir? J'essaie de parler lentement parce qu'il faut que j'apprenne à parler lentement. Il paraîtrait que j'écris. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, laisse-moi t'expliquer. Naaman était dans une situation difficile. Malgré qu'il était riche, malgré qu'il était puissant, malgré qu'il était homme considéré en Syrie, malgré qu'il était l'enfant chéri du roi, le héros du peuple, mais Naaman était atteint d'une maladie que ni le roi de Syrie ne pouvait résoudre, ni aucun médecin ne pouvait résoudre. Alléluia. Alléluia. Donc Naaman était en face d'une situation impossible. La situation ni la position de Naaman ne lui donnait la capacité de résoudre son problème. Bien aimé, chacun de nous dans la vie peut à un moment ou à un autre arriver dans un carrefour où ni l'argent ne peut payer, ni les relations ne peuvent payer, ni les médecins ne peuvent acheter. Bien aimé, Naaman était là. Il était dans ce carrefour-là. Bien aimé, lorsque ce genre de situation arrive dans ta vie, ce message est pour toi. Bien aimé, lorsque tu es dans une phase où tu as été diagnostiqué par une maladie incurable, ce message est pour toi. Lorsque dans une situation où les médecins ont tout essayé, mais n'a pas eu de solution, ce message est pour toi. Lorsque tu marches d'échec en échec, ce message est pour toi. Lorsque les promesses de Dieu deviennent de plus en plus lointaines et rien n'arrive à s'accomplir, ce message est pour toi. Alléluia. Oh, que Dieu entende quelqu'un cet après-midi. Alléluia. Et le premier secret qui nous permet de commencer à changer une situation difficile, de commencer à transformer ce qui est impossible au possible, c'est la présence de la bonne nouvelle. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Frères et sœurs, le monde est rempli de mauvaises nouvelles. Quand vous suivez les informations à la télé, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Quand vous allez voir les membres de votre famille, à 80% des cas, il vous donnera de mauvaises nouvelles. Quand vous discutez avec un homme ou une femme de l'église, à 80% des cas, il vous donnera que des mauvaises nouvelles. Mais lorsqu'il y a une situation difficile, il ne doit pas y avoir une mauvaise nouvelle. Il faut qu'il y ait une bonne nouvelle. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Là où la sorcellerie a régné, il faut qu'il y ait un messager de la bonne nouvelle. Il n'y a jamais de la manifestation de Dieu sans au départ qu'il y ait une bonne nouvelle. Mais là où le célibat a régné, il faut qu'un homme et une femme s'élèvent et annoncent le mariage. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Là où la pauvreté a régné, il faut qu'un homme ou une femme s'élève et annonce un nouveau temps du Seigneur. Bien aimé, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Naaman était condamné par la médecine, mais Naaman n'était pas condamné par Dieu. Alléluia. Alléluia. Naaman était condamné humainement, mais Naaman n'était pas condamné par Dieu. Bien aimé, le diable condamne, mais Dieu donne la bonne nouvelle. Frères et sœurs, l'évangile que nous tenons n'est pas l'évangile de condamnation. Parce que le Seigneur ne condamne personne. Là où l'oppression existe, il faut que la bonne nouvelle soit annoncée. C'est ça l'évangile. La bonne nouvelle à celui qui meurt est que la résurrection existe. La bonne nouvelle à celui qui est attaché est que Jésus-Christ délivre. Naaman ne pouvait pas sortir de sa situation tant que la fille qui était esclave chez Naaman ne lui a pas annoncé la bonne nouvelle. Bien, mais je visualise ce message. Naaman et sa femme en difficulté, en train de dire comment je vais devenir moi un général. Vous savez, s'il y a une maladie qui tue avec atrocité, c'est la lèpre. Je vais avoir les doigts coupés, je vais avoir des jambes amputées, moi qui suis un général. Le désespoir a rempli le cœur de Naaman. Mais pendant que Naaman est rempli de désespoir, un enfant esclave est messager de la bonne nouvelle dans la maison de Naaman. Il dit, oh, si Naaman pourrait aller en Israël, il rencontrerait un prophète et Naaman sera guéri de sa lèpre. Alléluia. Alléluia. Bien, mais Dieu change notre vie par une parole. Dis amen. Ne pense pas que ta situation va commencer à changer par l'imposition de main. Il faut qu'il y ait de la bonne nouvelle. Le premier secret, bien aimé, lorsque la situation est difficile, cherche où trouver la bonne nouvelle. Voilà pourquoi un croyant ne doit jamais rester chez lui. Parce que le miracle accompagne toujours la bonne nouvelle. Là où il y a une mauvaise nouvelle, il doit y avoir quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle. Le secret du changement est que la bonne nouvelle soit annoncée à quelqu'un cet après-midi. Alléluia. Le premier secret du changement dans ta vie est que la parole de Dieu doit être annoncée. Et l'évangile n'est rien d'autre que la bonne nouvelle. L'évangile n'est rien d'autre que là où la maladie a régné, la guérison régnera. La bonne nouvelle est que celui qui désespère aura encore de l'espoir. La bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, que Jésus-Christ demeure le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Bien aimé, la situation t'a opprimé pendant des années, Dieu te donne une bonne nouvelle aujourd'hui. Comme le Seigneur a donné la bonne nouvelle à Naaman, il dit, va en Israël, va à Samarie, il y a un prophète de Dieu là-bas. Bien aimé, oh, que la bonne nouvelle arrive vers quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. La malédiction ne régnera pas sur la famille. Jésus-Christ est mort à la croix, elle est devenue malédiction pour toi. Quelqu'un peut dire amen. La sorcellerie ne régnera pas sur la famille parce que la Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Bien, mais les échecs ne régneront pas dans notre vie parce que la Bible que nous tenons dit, l'Éternel, notre Dieu, nous donnera du succès. Dans tout ce que tu poseras ta main avec Jésus, tu auras du succès. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bien, mais le changement commence lorsque les chrétiens prennent conscience qu'ils sont porteurs de la bonne nouvelle. Nous parlons du Seigneur pour apporter la bonne nouvelle. Nous parlons au monde pour apporter la bonne nouvelle. Parce que Dieu apporte la bonne nouvelle. Le premier secret du changement n'est pas, mon ami, courir pour un miracle. Cours pour écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est une responsabilité de l'Église. Est une responsabilité personnelle et collective de l'Église de Jésus. Elle doit apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Est-ce que vous me suivez? Ce message est rempli de richesses. Je préfère l'enseigner très très calmement. Amen. Je dis ceci. Le premier secret pour changer ta vie, il faut que vers toi une bonne nouvelle arrive. Pourquoi les gens ne sortent pas de leur oppression? Parce qu'ils ne reçoivent pas la bonne nouvelle. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Mais quand tu es dans la maladie, il faut qu'on prophétise sur toi que tu seras guéri. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen. Bien, mais quand tu es lié par la pauvreté et tu ne sais pas par quelle porte cette pauvreté va se briser, il faut qu'un homme et une femme s'élèvent dans une audacité de foi et parler la bonne nouvelle vers ta direction. Bien, mais là où il y a la parole est annoncée, des vies changent. Là où la bonne nouvelle est annoncée, des vies changent. Frère,
le temps de la lumière arriver dans nos vies. Alléluia. Cela est d'abord la responsabilité du corps de Christ, de parler la bonne nous. Bien-aimé, devant la famille de Lazare, devant Marie et Marthe, Jésus-Christ a annoncé la bonne nouvelle, que Lazare sortira du tombeau. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Même si pour Marthe, cela semblait être impossible, mais la bonne nouvelle doit d'abord être annoncée. La bonne nouvelle doit d'abord venir vers toi, avant que Dieu m'ouvre vers toi. Quelqu'un peut dire amen. Bien-aimé, quand la situation est difficile, je préfère encore que tu meurs là où la bonne nouvelle est annoncée. Quand la situation est compliquée, ne cours ni à gauche ni à droite. Cours là où la bonne nouvelle doit être annoncée vers toi. Quelqu'un comprend cette chose à expliquer? Parce que vous allez comprendre pourquoi les gens ne reçoivent pas leur miracle. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu commences à t'enfoncer, les gens auront tendance à t'enfoncer davantage. Quelqu'un peut dire amen. Quand les choses deviennent compliquées, les gens ne t'annoncent pas de bonnes nouvelles. Ils t'annoncent de mauvaises nouvelles et ils t'enfoncent. Voilà pourquoi quand la situation est difficile, choisis les gens qui doivent t'accompagner parce qu'ils doivent t'apporter la bonne nouvelle. Tu peux dire amen avec moi? Tu peux dire amen avec moi? Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Bien aimé, la bonne nouvelle est la première clé qui change la vie d'un homme. Lorsque tu ne décolles pas, lorsque ta vie ne décolle pas, lorsque ton ministère ne décolle pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui croit en toi et qui t'annonce la bonne nouvelle. Le premier secret de tout changement est que la bonne nouvelle doit venir vers toi. Si tu ne peux pas la trouver dans la Bible elle-même, tu dois être dans l'atmosphère où la bonne nouvelle est annoncée. Quelqu'un me saisit? Quelqu'un me saisit? Dis à ton voisin, cherche la bonne nouvelle. L'évangile est un ensemble condensé de bonnes nouvelles. La Bible ne donne que de bonnes nouvelles. Mais TFM donne les mauvaises nouvelles. BFM donne des mauvaises nouvelles. ITL donne les mauvaises nouvelles. Mais seule la parole de Dieu donne de bonnes nouvelles. Voilà pourquoi ceux qui... Oh, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pourquoi? Cette personne est arrosée par la bonne nouvelle. Là où la situation est difficile, cherche la parole, bien-aimé. La première clé du miracle, c'est la bonne nouvelle. La deuxième clé, ou le deuxième secret, vous devez aller où se trouve Jésus. Alléluia. 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 Suivez-moi s'il vous plaît. Quand ma situation est difficile, quand j'ai reçu un diagnostic difficile, quand je vois les choses marcher mal, quand je vois que je suis sous l'oppression de l'ennemi, la première des choses, je cherche où se trouve la bonne nouvelle. La deuxième des choses, il faut que je cherche où se trouve la présence de Jésus. Laisse-moi t'expliquer. Naaman, on lui a dit, si tu vas à Samarie, tu seras guéri de ta lèpre. Mais Naaman est allé au mauvais endroit. On lui a dit, si tu vas à Samarie, tu trouveras un prophète. Et il te guérira de la lèpre. Naaman, au lieu d'aller vers les prophètes, il est allé vers le roi. Qui me saisit? Au lieu d'aller vers les prophètes, Naaman est allé vers le roi. Naaman est allé vers le roi. Naaman est allé au mauvais endroit. Suivez-moi, s'il vous plaît. Dieu est omniprésent. Mais sa puissance. Suivez-moi s'il vous plaît. Dieu est omniprésent. Sa puissance n'est pas omniprésente. Laisse-moi t'expliquer. Naaman, on lui a dit, tu trouveras la guérison à Samarie. Mais Naaman devait aller dans un endroit bien spécifique. Il devait aller voir le prophète de Samarie, non le roi. Mais Naaman est allé voir le roi au lieu d'aller voir où se trouve la puissance de Dieu. Alléluia. Mais toute personne qui est venue vers Jésus réellement a été libérée. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Lorsque ma situation est difficile, je dois aller dans l'atmosphère où Jésus est. La responsabilité de l'église qui veut voir la main de Dieu, c'est de créer l'atmosphère réelle de la présence de Christ. Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas dans un endroit, il n'y a pas de changement dans cet endroit-là. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Je peux prêcher la parole de Dieu, mais ne pas être accompagné par la présence de Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Je peux prêcher l'évangile, mais ne pas être accompagné par la présence de Jésus. Lorsque je veux un changement, je dois aller où se trouve la présence réelle de Jésus. Et la présence réelle de Jésus n'est pas partout. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Lorsque tu pries, il faut que tu saches où tu pries. La non-compréhension de la présence de Jésus dans certains endroits font que le miracle tarde. Il y a des endroits où tu dois prier. Il y a des endroits où tu ne dois pas prier. Parce que la présence de Jésus n'y est pas. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Naaman devait aller où se trouvait Jésus. Tous ceux qui venaient rencontrer Jésus étaient délivrés. Tous ceux qui venaient rencontrer Jésus, leur vie ont changé. Mais ils devaient aller où se trouve Jésus. Je suis malade, je suis diagnostiqué, je suis dans une situation difficile, je dois aller là où se trouve la présence réelle de Jésus. Seul dans cet endroit-là, ma vie changera. Vous êtes avec moi ce soir? Vous êtes avec moi ce soir? Le deuxième secret, c'est d'aller où se trouve la présence de Jésus. Et cette présence de Jésus n'est que dans un endroit où les gens honore le nom réel du Seigneur. La présence de Jésus est que dans un endroit où les gens croient et prient réellement. Je peux bien prêcher l'évangile, mais si je ne prie pas, la présence de Jésus ne m'accompagne pas. On peut bien adorer, mais si on n'a pas une vraie vie de prière, la présence de Jésus ne vient pas à cet endroit-là. Voilà pourquoi la responsabilité de l'église, c'est de créer l'atmosphère de la présence de Jésus au travers du Saint-Esprit qui nous a été laissé comme un consolateur. Dans un endroit où les gens prient, et c'est pour ça que la Bible dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Dans un lieu où les gens prient sincèrement, la présence de Dieu s'implante dans cet endroit et les gens reçoivent les miracles dans cet endroit. Dans un lieu où tu pries régulièrement, la présence de Dieu restera dans cet endroit-là. Ne sois pas aujourd'hui je prie dans la cuisine, demain je prie dans la salle à manger, le lendemain je prie dans la salle de bain. Le lendemain, j'ai pris dans une voiture. Mon ami, il faut que tu identifies un lieu où tu pries. Et quand tu pries dans cet endroit, la présence de Jésus se crée à cet endroit-là. Et plus tu vas prier à cet endroit, plus la présence de Jésus sera intense en ce lieu. Et plus tu seras dans cette atmosphère, la présence de Dieu te touchera là. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Oh my God. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Dieu dit à Moïse, je te rencontrerai devant les propriétaires. C'est là où je te rencontrerai. Cela veut dire que Moïse et Dieu ne se rencontraient pas dans les parvis extérieurs. Ils ne se rencontraient pas dans les lieux saints. Ils se rencontraient devant les propriétaires, entre les deux chérubins. C'était le lieu de rencontre. Pourquoi? Parce que la présence de Jésus n'est pas omniprésente. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Voilà pourquoi un chrétien qui veut changer sa vie doit bâtir l'autel. Et tu dois avoir un coin où tu bâtis l'autel. Et toutes les fois que tu seras là, Jésus sera là. Quand Dieu permettra que nous puissions acheter notre salle à nous, dans ces lieux-là, il y aura prière sur prière. Et lorsque les gens viennent à cet endroit-là, qu'ils aient prié ou pas, Dieu le visitera parce que Jésus sera là. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? J'ai dit, quand tu veux un miracle, ne cours pas de maison en maison. Parce qu'il y a des endroits où Dieu n'est pas. Il y a des ministères où Dieu n'est pas. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? J'ai constaté une chose. Les chrétiens qui vont d'église en église, qui ne s'assoient pas à un endroit, ces chrétiens-là ne prospèrent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où Jésus n'est pas. Et si Jésus n'est pas, alors quelqu'un d'autre est là. Quelqu'un me saisit? Là où tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, il faut être là où Jésus est. Dis à ton voisin, va chercher la présence de Dieu. Va chercher la présence de Dieu. Bien aimé, je vais enseigner plus loin sur comment pratiquer la présence de Dieu, mais je te donne quelques deux secrets essentiels. Lorsque tu bâtis une vie de prière, bâtis une vie de prière à un temps précis et à un lieu précis. À cause de la présence de Jésus. Bâtis la vie de prière à un lieu précis et à un temps précis. Et toutes les fois que tu seras dans ce lieu-là, tu verras que la vie de prière va couler. Parce que l'Esprit de Dieu va t'aider dans ce lieu-là pour que la vie de prière coule en toi. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Lorsque tu veux bâtir et recevoir le miracle de Dieu, tu dois comprendre que tu dois aller où se trouve Jésus. Dis à ton voisin, va où se trouve Jésus. Plus fort, va où se trouve Jésus. Tu dois avoir le discernement là où Jésus n'est pas. Là où Jésus n'est pas, les vies stagnent. Là où Jésus n'est pas, les vies ralentissent. Là où Jésus n'est pas, la mort hante. Mais là où Jésus est, bien-aimé, quelle que soit la situation où tu es, que tu aies demandé ou pas, sa seule présence va te propulser vers l'avant. Que la présence réelle de Jésus, sa présence s'y plaît à notre foi. Que tu aies la foi ou pas, là où Jésus est, il s'y plaît à ta foi. Quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi quand on veut recevoir les miracles, il faut être au bon endroit. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont jamais compris cette notion. Les miracles se produisent là où Jésus est, point à la ligne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Troisième chose, quand on veut recevoir un miracle de Dieu, il faut corriger certaines actions. Premier secret, je vous ai dit, il faut recevoir la parole de Dieu. Deuxième secret, il faut aller là où Jésus est. Mais si tu ne l'as pas encore trouvé, cherche. Ici, là où tu es, Jésus est. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? J'ai dit, quand vous traversez cette porte, vous entrez ici, Jésus est ici. Alléluia. Alléluia. Parce qu'avant que vous veniez ici, les gens ont prié et ont demandé que sa présence nous précède dans cet endroit. Donc Jésus est ici. Maintenant, la troisième chose, certaines actions doivent être corrigées. Pourquoi? Parce que certaines actions bloquent notre foi à se libérer. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? Ça te fait du bien? Ça te fait du bien, laisse-moi t'expliquer. Naaman était un homme considéré. Il était un homme riche, respecté. Mais la position de Naaman a créé en lui de la fierté. Mais là où il y a la fierté, le miracle ne peut pas couler. Là où il y a l'orgueil, le miracle ne peut pas couler. Mais là où l'ego est surdimensionné, Jebac +10, le miracle de Dieu ne peut pas couler. La réussite de Naaman agissait mal contre lui. Quelqu'un peut dire amen. Ce n'est pas mauvais d'avoir de la réussite. Ce n'est pas mauvais de voir la gloire de Dieu. Vous savez, même prêcher l'évangile, je peux prêcher l'évangile sous l'orgueil. Et Dieu n'honore pas les orgueilleux. Quelqu'un peut dire amen. La Bible dit, celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Et celui qui s'élève, Dieu l'abaisse. Cela veut dire que si Dieu m'utilise aujourd'hui ou demain, ça peut planter en moi de l'orgueil. Bien, mais sonne ton cœur. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir. Bien, mais les chrétiens parfois sont devenus très orgueilleux, mais enfouis en eux-mêmes. Dieu m'utilise. Mon ami, nous sommes que des instruments. Que toute forteresse d'orgueil tombe de nos vies à jamais. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Bien, mais quand tu commences à voir la gloire de Dieu, tu dois veiller qu'aucune trace d'orgueil ne naisse de ton âme. L'orgueil de Naaman bloquait la vie de Naaman. Voilà pourquoi Dieu n'a pas autorisé à Élisée d'aller voir Naaman. Parce que Dieu pouvait autoriser à Élisée, va voir Naaman, prie pour lui. Mais Dieu a dit, ne lui dis même pas que je vais venir, envoie quelqu'un. Bien, mais les gens venaient servir Naaman. Et ils pensaient que Dieu allait les servir. Mais Dieu règne sur la terre. Et le prophète fait un choc dans l'âme de Naaman. Il lui dit, va te jeter dans la Seine, gars. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Mets-toi à la place de Naaman. Naaman est un homme considéré, un général. Comment un prophète peut, moi, général, d'aller me jeter dans la Seine? Non. Voyez, le miracle de Naaman était bloqué non pas par sa présence spirituelle, par son attitude. Bien aimé, beaucoup de nos miracles sont bloqués par nos attitudes. Celui qui reçoit un prophète à qualité d'un prophète reçoit la récompense du prophète. Ah, c'est notre pasteur, je le connais. Oh, c'est mon pasteur. Automatiquement, dès que tu reçois la parole de cette manière, l'attitude bloque la parole de couler. Tu peux dire amen avec moi? Tu peux dire amen avec moi? Donc Dieu voulait que Naaman change d'attitude. Et c'est pour cela qu'avant de le guérir, Dieu a commencé à humilier Naaman. Il dit, Naaman, toi on te sert, on te porte sur tu peux. Maintenant tu vas aller te jeter dans la Seine, gars. Naaman a lutté avec la parole de Dieu. Mais il y a des moments quand Dieu nous corrige, nous luttons avec. Naaman s'énerve. On dit, comment ça? Il y a des fleuves à Syrie, mieux que la Seine. Parce que les Jourdains étaient boueux. Était un fleuve rempli de boue. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Donc en fait, on disait à un général, va te jeter dans la boue. Quand tu vas te jeter 7 fois, tu seras guéri. Frère, là où il y a l'orgueil doit quitter. Là où il y a la fierté doit quitter. Là où il y a trop d'estime de soi-même, l'estime de soi-même doit quitter. Là où il y a la haine doit quitter. Là où il y a les querelles doivent quitter. Parce que Dieu ne mouve pas là où ces choses sont. Quand bien même la foi est, mais ces choses sont des obstacles de la foi. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un prier beaucoup et la vie ne change pas. Dis à ton voisin, sonde-toi toi-même. Dieu, Seigneur, accepte la correction de Dieu. Plus fort, accepte la correction de Dieu. Plus fort, accepte la correction de Dieu. Bien, mais quand Naaman a accepté la correction de Dieu, c'est à ce moment-là que Naaman a commencé à être guéri. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux dans ce message, Naaman n'était pas guéri quand il est sorti de la Seine. Son âme a été guérie quand il s'est humilié, dit bon, ce n'est pas grave, Naaman. Je vais aller me jeter dans cette scène-là et je serai guéri. Et Naaman a pris son courage en main. Il a vu ses soldats derrière et dit, mes enfants, on va aller se jeter dans la scène. Dieu a dit, amen. Et Naaman est parti. Mais quand Naaman partait, quelque chose s'est passé dans son âme. De l'orgueilleux qu'il était, Dieu l'a amené plus bas. Et il l'a aligné dans son plan. Mon ami, bien aimé, il faut que Dieu nous amène à synchroniser notre esprit par rapport à sa parole pour qu'il nous touche pleinement. Bien aimé, il y a des moments dans ta vie, tu vas aller demander pardon à tes pires ennemis parce que tu veux t'aligner à Dieu. Il y a des moments dans ta vie, tu vas prendre le manteau de l'orgueil jeté dans la poubelle parce que tu veux t'aligner à Dieu. Il y a des moments dans la vie, tu dois prendre le mensonge jeté dans la poubelle parce que tu veux t'aligner à Dieu. Vous savez, même l'avarice peut nous empêcher de recevoir un miracle. Toutes les fondues, on va donner la dîme, toi tu murmures. Bien, mais à un moment donné, quand il reçoit la parole, aligne-toi sur elle. Bien, mais quand on veut changer les situations, c'est l'homme qui doit changer au départ. Je dis ceci. Avant que ta situation change, toi, tu dois changer au départ. Ces trois secrets sont essentiels pour que le miracle de Dieu se produise. Et le quatrième secret, quand Naaman a été changé à l'intérieur, il a posé un acte de foi. Maintenant, son acte de foi était totalement aligné dans les plans de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui posent des actes de foi en termes de folie, sans aligner leur vie au plan de Dieu. Et automatiquement, ces actes de foi, au lieu d'honorer Dieu, ça humilie Dieu. Lorsque Naaman s'est jeté dans l'eau, Naaman était transformé à l'intérieur. Donc automatiquement, son acte de foi était une puissance qui enclenche les miracles. Donc le secret, le quatrième secret, c'est de poser des actes de foi. L'acte de foi peut être de toutes sortes. L'imposition de main est un acte de foi. L'onction d'huile est un acte de foi. La dîme est un acte de foi. L'amour est un acte de foi. Aller visiter les gens, c'est un acte de foi. Bien aimé, tout ce que Dieu met à notre disposition peut servir pour poser un acte de foi. Donc, dans la vie de Naaman, on a vu quatre principes. D'abord, la bonne nouvelle. Aller là où se trouve Jésus. Poser des actes de correction. S'il y a un frère dans l'église que tu ne salues pas, après ce message, va le chercher, salue-le. S'il y a une sœur à l'église, tu es sœur, je parle. Hein? Je ne parle pas de frère d'appeler les sœurs. Je dis sœur qui appelle sœur. Si tu es sœur à l'église et qu'il y a une sœur de l'église que tu n'as jamais appelée depuis qu'elle est venue, prends ton téléphone, appelle-la pour avoir ses nouvelles. Et aussi, poser des actes de foi. Et nous allons voir les trois autres principes. Frère Jacques, tu vas nous aider. Amen. Dans Marc chapitre 5, versets 24 à 37. À 34 plutôt, 25 à 34 s'il te plaît. Marc 5, 25 à 34. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Comment ça fait ce 25 s'il te plaît? Amen.
Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal.
Amen. Regardez, ces deux passages n'ont presque pas beaucoup de choses en commun. Mais quand on les analyse très bien, on voit que la femme à qui le sang a coulé a fonctionné dans les mêmes principes que Naaman. La Bible nous dit que cette femme avait 12 années de maladie. Cela veut dire que la guérison de cette femme était quasiment impossible. Comme la guérison de Naaman était impossible. Alléluia. Cette femme était dans une situation impossible comme Naaman. Mais la Bible nous dit que cette femme a aussi entendu parler de Jésus dans son environnement. Comme la fille a parlé à Naaman, qui est un prophète en Samarie. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, comme Naaman est allé chercher son miracle, cette femme, elle n'était pas assise. Elle s'est levée, elle a dit, j'irai voir Jésus. Alléluia. Bien-aimé, cette femme, pendant 12 années, elle a souffert de maladies. Elle a souffert d'écoulement de sang. Cela veut dire que cette femme était affaiblie physiquement. Cette femme physiquement était affaiblie, mais elle se disait, je vais aller là où se trouve Jésus. Mais le désir du miracle de cette femme a canalisé son effort. Et cette femme est allée là où se trouvait Jésus. Amen. Donc vous voyez que tous les principes qu'on a vus plus haut se sont retrouvés dans la vie de cette femme. Mais elle avait quelque chose de supplément que Naaman n'avait pas. Cette femme se retrouve au milieu d'hommes. Parce que Jésus était entouré de foule. Et cette femme arrive là, elle doit toucher Jésus. Suivez-moi s'il vous plaît. Cette femme affaiblie par la maladie, anémiée, c'est-à-dire sans force, elle arrive, elle doit toucher Jésus au bord. Mais elle se retrouve en face d'un obstacle, Jésus est encerclé par les hommes. Comment une femme déjà affaiblie va faire bousculer les hommes pour qu'elle y arrive? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, vers le chemin de ton miracle, tu peux arriver subitement à trouver un obstacle imprévu. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Un obstacle que la femme n'a pas vu au départ. Cette femme ne s'imaginait pas qu'en allant vers Jésus, elle allait trouver que Jésus était inaccessible. Bien-aimé, il y a des moments, Jésus est inaccessible. Elle ne pouvait pas imaginer, juste devant là où se trouve son miracle, le coin barricadé. Bien-aimé, tu sais que Dieu va t'entendre, mais tu arrives, le coin barricadé, il y a un obstacle. Que faire? Cette femme rencontre un obstacle en cours de route, affaiblie. Donc elle ne va pas pousser un gaillard comme Pierre, il dit, laisse-moi le passage. Elle ne peut même pas aller dire à Pierre, s'il te plaît, tu peux dire au maître de me toucher. Pourquoi? Parce qu'il avait un écoulement de sang. C'est-à-dire qu'en Israël, elle n'avait pas le droit d'y être. Parce que sa place était en dehors du cadre. Donc, même si elle veut aller chercher de l'aide, elle ne pouvait pas en avoir. Donc, la dame est en face d'une montagne. Si quelqu'un est dans cette montagne-là aujourd'hui, Dieu te donne un secret. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen. Cela veut dire que tu es en face, tu vas vers ton changement, mais tu arrives subitement, tout marche de travers. Tout se renverse. Que faire? Mais la dame connaissait la puissance de la parole. L'unique chose que cette femme avait en différence de Naaman, la dame connaissait la puissance de la parole proclamée. Parce qu'elle se disait, si je touche cet homme, je serai guéri. Donc, c'est-à-dire que cette femme, malgré la faiblesse de son corps, elle disait, je toucherai cet homme et je serai guéri. Je toucherai cet homme et je serai guéri. Je toucherai cet homme et je serai guéri. Les paroles de la femme ont travaillé à sa faveur. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela veut dire que ce que tu n'arrêtes pas de proclamer, tu crées l'atmosphère pour son accomplissement. Ce que les bras ne peuvent pas toucher, la parole peut toucher. Dans le monde de l'esprit, la parole va plus vite que les actes. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Cette femme, son miracle n'était pas sur ses jambes. Son miracle était dans sa bouche. Elle se disait, je toucherai cet homme et je serai guéri. Je toucherai cet homme et je serai guéri. Bien-aimé, toute Toutes les fois qu'elle déclarait ça, elle frayait un chemin spirituel. Les anges l'accompagnaient et bougeaient Pierre, bougeaient Matthieu, bougeaient Luc pour que son doigt traverse. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? Mais quand l'obstacle de ta vie est là, la chose à utiliser, ce sont tes paroles. Et il faut que tu voies où tu vas, tu vois les promesses et tu les mets dans ta bouche et que tu les parles et que tu l'envoies en l'air. Ces promesses vont tomber sur ton chemin. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? Mais cette femme n'a pas arrêté de parler. Je serai guéri. Oh, cette année, je me marierai. Oh, c'est, même si le cinquième français s'est barré, cette année, je me marierai. Oh, my God. Dieu a dit, il faut que les jeunes se marient et qu'ils fondent des familles. Même si je suis diagnostiqué par les médecins, je sortirai de là. Parce que c'est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Même si mon ministère stagne, Dieu m'a donné la nation et je saisirai la nation. Et tu n'arrêtes pas de parler. Tu n'arrêtes pas de les proclamer, que ce soit en privé, que ce soit en public, parle de ta destinée. Bien-aimé, je te dis une chose. Celui qui veut un miracle, met le miracle dans sa bouche. Et c'est comme ça que Dieu crée les miracles. Dieu, au commencement, il s'est fait qu'à parler. Que la lumière soit, la lumière fut. Que cette chose soit, la chose fut. Telle chose soit, nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Et cette femme connaissait la puissance de la confession. Le cinquième secret, c'est la puissance de la confession. Bien aimé, je vais te dire une chose. L'argent que tu as en poche n'est jamais différent de ce que tu dis. Le monde cherchera à te dire que tu es incapable. Et toi-même, tu dois dire que tu es capable. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Quand les choses deviennent difficiles, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Je peux tout accomplir par celui qui me fortifie. J'ai la grâce nécessaire. J'ai la sagesse nécessaire. J'ai l'onction nécessaire. J'ai la puissance nécessaire. J'ai la révélation nécessaire. J'ai la sagesse nécessaire. J'ai la puissance nécessaire. J'arriverai là où Dieu a prévu pour moi. J'accomplirai ce que Dieu a prévu pour moi. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je serai là où Dieu veut que je sois. Quelqu'un peut dire amen. Mais je suis ce que Dieu a prévu que je sois. Tu es ce que Dieu a prévu que tu es. Mais les cyclones de la terre se mouvent quand ils utilisent la puissance de la parole. Cette femme affaiblie, mais sa parole n'était pas affaiblie. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Le quatrième miracle, le cinquième secret, c'est la parole proclamée. Mais fais attention. La parole proclamée en prière n'est pas différente de la parole proclamée en causerie. J'explique. J'ai dit ceci. Cette femme savait que le miracle était dans sa bouche, pas dans ses jambes, pas dans ses muscles. Le miracle était dans sa bouche. Et elle n'a pas arrêté de déclarer le miracle. Mais si tu vois tes enfants aller dans une autre direction, parle sur ces enfants. Pourquoi dans les veillées, je prophétise sur vos vies? Parce que j'ai connu la puissance de la parole. Mais quand la parole de Dieu vient vers toi, elle rend nul un vainqueur. Il suffit que tu t'accordes avec la parole, elle devient une semence dans ta vie. Mais ne laisse pas le diable voler tes enfants. Quand il commence à aller à des travers, parle sur cet enfant-là, il se redressera. Mais laisse-moi te dire, beaucoup de gens ont la foi quand ils prient. Mais quand ils parlent entre eux, ils n'ont pas la foi. Je mourrai de ce cancer. Je ne serai pas guéri. Mais Dieu entend. C'est quand même des paroles. Même si ce ne sont pas des paroles sans transe, mais c'est quand même des paroles. Dans le monde de l'esprit, on ne joue pas avec la parole, parce que la parole est l'esprit et vie. Mais je me suis rendu compte, quand je commence à parler mal de moi-même, le mal m'atteint. Dis avec moi ce soir. Vous savez, il y a des moments où on parle mal de nous-mêmes, sans se rendre compte qu'on veut créer du mal. Oh, le diable est risé. Il peut nous amener à parler du mal de nous-mêmes, à diminuer notre propre image de ce que Dieu a créé de nous, et à parler du mal de nous-mêmes à nous-mêmes ou à quelqu'un d'autre. Les choses sont difficiles, je n'y arriverai pas. Mon ami, quand il dit je n'y arriverai pas aujourd'hui, je n'y arriverai pas mardi, je n'y arriverai pas mercredi, je n'y arriverai pas jeudi, je n'y arriverai pas, bien aimé, le dimanche,
Une circonstance va venir pour te dire, tu as dit que tu n'y arriverais pas, donc tu n'y arriveras pas.
Lorsqu'on veut changer nos vies, changeons nos paroles. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Ne montrez pas aux gens que tu es fauché. Comment ça va? Tout va bien, bien-aimé. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? C'est le langage des saints. Mon frère, comment tu vas? Oh, tout va bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais tu sais que tu n'as pas mangé, ça fait un jour. Parce que la parole t'amènera là où tu l'as proclamé. Là où tu l'as placé, la parole t'arrivera. Sixième secret. Ce secret vient se rajouter. Je vais terminer cette pensée. La femme tellement est parlée que je suis sûr, c'est un seul doigt qui a juste frôlé la robe de Jésus. Parce qu'elle n'était pas capable de bousculer les gens, mais un seul doigt. Et quand il touche Jésus, ce n'est pas son doigt qui le touche, ce sont ses paroles qui touchent Jésus. Pour preuve, Jésus-Christ reconnaît qu'une force sort de lui. Il se retourne, il dit, quelqu'un m'a touché. On lui dit, mais tout le monde te touche. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre cette touchée de cette femme et la façon que tout le monde touchait Jésus? Ce sont ses paroles. Les autres touchaient Jésus par habitude. Les autres touchaient Jésus par sécurité. Les autres disaient, arrêtez, écartez-vous. Mais lui, il disait, je les toucherai et je serai guéri. Bien, mais il y a des moments quand je viens à la veille, je dis, Seigneur, tu me verras aujourd'hui. Quand tu passeras là, tu me verras, je serai là. Quand tu passeras là, tu me verras. Certainement, tu me verras. Et je ne serai plus jamais. Vous savez, les chrétiens viennent à l'église sans conviction, sans envie. Mais quand je suis dans une bataille, dès ma maison, je dis, Seigneur, je viens là où tu as placé ton nom. Et je sais que tu es là. Peut-être mes yeux ne te verront pas, ça c'est certain. Mais en tout cas, peut-être que je ne te sentirai pas, ça c'est certain. Mais cela ne changera à rien, que toi tu me toucheras. Parce que ma foi s'élèvera par rapport à ma confession. La Bible dit, le juste vivra par la foi, pas par ce qu'il voit, par ce qu'il dit. Croire, c'est parler. Croire, c'est confesser. Croire, c'est proclamer. Si tu n'arrêtes pas de dire, j'irai dans les nations et je prêcherai l'évangile dans les nations et les âmes seront sauvées et les milliers d'âmes seront sauvées. Mais n'arrête pas de le dire. Mon ami, une force t'amènera sur les nations. Une dernière chose. Tu es béni, mon grand. Sois béni. Une dernière chose, deux principes de base. Mais ces principes sont dans Luc chapitre 5. Je vous épargne de la lecture, je vous explique. Amen. Dans Luc chapitre 5, verset 17 à 26. Vous allez voir que tous les principes se rencontrent. Lisez ça à la maison. Ici, c'est un paralytique. Et ça fait des années que le paralytique est assis. Sans qu'il marche. Amen. Mais ils entendent que Jésus est dans la maison. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que Jésus n'avait pas de maison. C'est faux. Hein? La Bible ne dit pas que Jésus n'avait pas de maison. Si, si. Jésus avait une maison. On vous enseigne ça une autre fois. Mais la Bible nous dit que Jésus était dans la maison. Et quand Jésus était à la maison, les gens sont venus dans la maison. Et la maison était remplie du monde. Et la Bible nous dit que la puissance de Jésus s'est manifestée par des guérisons. Tellement que la maison était remplie jusque dehors, toute la maison était complètement remplie. Mais l'homme paralytique a un problème. Il n'a pas les jambes. Déjà pour se déplacer de là où il est pour aller jusqu'à la maison. Mais il a appris que Jésus est là-bas. Donc la bonne nouvelle doit être annoncée. Mais l'homme paralytique a un obstacle. Il n'a pas les jambes. Mais l'homme paralytique a un atout. Les gens qui l'entourent. Lorsqu'on veut avoir le miracle, il faut bénéficier de l'amour et de la compassion de son entourage. Qui me saisit? J'ai dit, l'autre secret de la visitation, lorsqu'on veut recevoir de Dieu, Il faut avoir l'amour et la compassion des gens qui t'entourent. Cet homme est bloqué, mais les autres ne sont pas. Alléluia. Alléluia. Les autres ne sont pas. Donc, ils peuvent l'amener là où Jésus est. Alors, les gens se décident. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont simplement aimé. Je parle à quelqu'un ce soir. Ne force pas que quelqu'un t'aime. Oh. 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 Je dis, ne force pas l'amour. L'amour ne se force pas. L'amour jaillit de l'âme. Mais toi, tu as la capacité de discerner qui t'aime et qui ne t'aime pas. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Ne t'aimez pas avec les gens qui ne t'aiment pas. Cet homme avait cette chance d'être entouré par des gens qui l'aimaient. Dieu va toucher son cœur, il m'aimera. Il ne t'aimera pas, mon ami. Une personne sage reconnaît là où on l'aime et il s'assoit là. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Même dans ton travail, ne force pas à travailler pour un patron qui ne t'aime pas. Mon ami, tu n'iras nulle part. L'amour, lorsqu'on vit l'amour, cela nous propulse en avant. Cet homme était handicapé, certes, mais cet homme bénéficiait de l'amour et de la compassion de sa famille. Si quelqu'un ne t'aime pas, fouille-le. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Fouille-le physiquement, intercède pour lui. Mais physiquement, ne sois pas à côté de lui. Quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Vos pensées sont ailleurs. Je réexplique. Jésus-Christ connaissait la puissance de la compassion autour et de l'amour. Quand il arrive chez Jairus, il fait virer tout le monde. Il prend Jacques, Jean et Pierre. Il les amène. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui l'aimaient plus. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Lorsque tu marches dans la foi, tu dois comprendre que la foi marche toujours dans l'amour. Et alors tu dois t'associer aux gens qui t'aiment. Et quand tu seras dans l'handicap, ces gens-là, leur amour et leur compassion, t'ouvrira les portes. Ces hommes ont décidé de prendre leurs paralytiques, de les mettre sur les épaules. Ils ont dit, on va t'amener là où était Jésus. Maintenant, dis-moi, s'il n'avait pas ces quatre gaillards, est-ce qu'il allait se déplacer là où allait être Jésus? Non. Et ces quatre personnes, ce sont qui? Ce sont des intercesseurs qui portent les malades jusque là où Jésus est. Cela veut dire que les miracles se produisent que là où il y a des intercesseurs. Laisse-moi t'expliquer. Il y a des choses qui ne se produiront jamais sur terre tant qu'il n'y aura pas des gens qui sont remplis d'amour et de compassion. Quelqu'un peut dire amen. Cela veut dire qu'il y aura des miracles qui ne se produiront jamais sur terre tant qu'il n'y aura pas des gens qui vont regarder. Mon frère est en difficulté. Oh, on va les prendre. Quelqu'un peut dire amen. Voilà pourquoi l'église de Jésus doit être un lieu d'amour et de compassion. Cela veut dire que l'église de Jésus, on n'enfonce personne. Quand quelqu'un trébuche, on lui dit, il est mal. On doit l'aider et reporter. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? Pourquoi l'église de Jésus est devenue faible aujourd'hui? Parce que ces quatre personnes n'existent plus. Aujourd'hui, l'église de Jésus est devenue un lieu où on regarde les autres avec dédain. Tiens, aujourd'hui. Tu allais arriver là. Je savais que tu allais arriver là. Mon ami, quand quelqu'un tombe, il faut que quelqu'un d'autre le relève. Et ces quatre personnes ont pris leur malade, bras le corps, ils l'ont amené. Ils ont franchi l'obstacle. Bien-aimé, oh, que Dieu te fasse grâce que tu rencontres les gens qui vont t'aimer sur terre. Je te dis, tu peux devenir riche. Tout simplement parce qu'un jour, dans un coin, tu as rencontré quelqu'un qui t'a aimé sans condition. Je ne parle pas de l'amour de femme et homme. Je dis de parler homme à homme comme ça. Et il t'ouvre les portes. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Mais je t'explique une chose. Beaucoup de chrétiens sont encore des bébés dans la foi. Ils ne comprennent pas ces principes. Moi, je ne fais pas des affaires avec quelqu'un qui ne m'aime pas. Jamais. Cette personne va te fatiguer. Il sera toujours exigeante. Il fallait nettoyer ici. Tu n'as pas nettoyé, tu nettoies. Non, tu as oublié de nettoyer ici.
Tu nettoies. Non, tu as oublié de nettoyer ici. Et quand tu sors ton facture, il va diviser la facture par deux. Mon ami, si je vois ça, je fuis. Quelqu'un d'autre, mon ami, tu vas faire ton travail, dit facture, mon gars, je vais te donner des sous. Quelqu'un peut dire amen. C'est la compassion. Bien, mais il faut que tu trouves quelqu'un qui t'aime sur terre. Mais laisse-moi maintenant te dire. Oh, dis à ton voisin, je t'aime. Même si tu ne le connais pas, dis-lui que je t'aime. Mon gars, je t'aime. L'amour, frère, l'amour ouvre les miracles que la foi ne peut pas ouvrir. L'amour rend disponible ce qui était loin pour toi. Alors laisse-moi t'expliquer quelque chose. Tu veux réussir dans la vie, et l'œil pour voir là où se trouve l'amour. Et tu dois te positionner là où se trouve l'amour. L'échec le plus rapide dans la vie, c'est là où tu es entouré des gens qui ne t'aiment pas, qui ne t'acceptent pas, qui échoueras. Est-ce que vous savez dans la Bible qu'il y a des endroits même que Jésus lui-même a fui? Le Fils de Dieu. Mais le problème c'est quoi? Ces gens-là ne l'aimaient pas. Donc ils ne pouvaient pas l'accepter. Le secret des miracles, c'est la capacité que les gens t'aiment et t'acceptent. Mais toi, ta responsabilité, c'est d'identifier qui sont ces gens qui t'aiment et que tu ailles vers eux. Parce que n'oublie pas, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer sur terre. Quelqu'un peut dire amen. Il y en a d'autres, quand tu vas trébucher, tu vas tomber et ils vont applaudir. Ils vont boire du champagne. Mon ami, ne t'aimais pas avec ces gens-là. Il y en a quelqu'un d'autre qui va t'aimer. Alors mets-toi avec ces gens-là. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Mais aussi, les miracles ne se produisent que là où l'amour et la compassion agissent. C'est-à-dire quoi? Quand tu es serviteur de Dieu, regarde, dans le cœur d'Aaron, il y avait les 12 noms d'Israël gravés. Pourquoi Dieu l'a gravé dans son cœur? Un jour, on enseignera sur l'abîme d'Aaron. Pourquoi Dieu l'a gravé dans son cœur? Parce qu'il devait aimer le peuple d'Israël. Et il devait les porter tout le temps dans leur cœur. Le ciel de l'amour. Mon ami, tu dois marcher dans l'amour pour que tu deviennes un serviteur puissant. Parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas intercéder pour lui. Le septième secret, c'est quoi? Ces gars, ils portent leurs malades. Ils l'aiment. Oh, alléluia. Mais ils arrivent à la porte. La porte est bouchée. L'amour n'a pas suffi. Vous me saisissez? Vous me saisissez? Le dernier secret de ces gens, j'ai dit ceci. Comprends-moi ce que je suis en train de te dire. Saisis étape par étape. Trouve la parole. Va là où la présence de Jésus est. Amen. Va plus loin dans la présence où Jésus est. Si Jésus-Christ n'est pas là, ne va pas. Mais si Jésus est, va là-bas. Amen, amen. Va plus loin. Mais constate. Pose des actes de foi. Proclame. Mais entoure-toi des gens qui t'aiment. Une dernière chose. Quand ces gens te portent, il peut toujours y avoir un obstacle. Ils arrivent, la porte est bouchée. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là qui trouvent la porte bouchée ont une imagination surnaturelle apparaître? Quelqu'un peut dire amen? Ça veut dire qu'ils amènent les malades. Ils arrivent, on ne peut pas passer, on fait comment? Bien aimé, l'amour les a amenés jusque-là. Mais ils étaient déterminés. Quelqu'un peut dire amen? Bien aimé, les miracles se produisent qu'aux gens qui sont déterminés. Dis à ton voisin, sois déterminé. Sois déterminé. Je dis, sois déterminé. Les gens qui ne sont pas déterminés n'ont pas une imagination débordante. Bien aimé, là, Dieu n'a pas apparu. Personne ne leur a dit quoi que ce soit. Ils disent, bon, la porte, elle est fermée. On fait quoi? Il se rend compte, mon ami, on a fait cette longue route. Oh, je pouvais me mettre avec ces gens-là. Les quatre gaillards, ils marchent avec leur mec qui fait 70 kilos sur les épaules. Ils arrivent, ils trouvent la porte bouchée. Ils posent les gars. Ils disent, mon ami, on est coincé. Il est à l'intérieur.
mais il ne peut pas sortir.
Une des personnes regarde à gauche, elle dit, non,
il y a les toits.
Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire, il y a les toits. Là-bas, il n'y a personne. Mais qui va monter, dit, toi qui es gaillard, tu montes sur mon épaule et je te fais monter là-haut. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, s'ils n'étaient pas déterminés, ils n'allaient pas voir le toit. Mon ami, il y a toujours un toit pour toi. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Bien-aimé, ces gens n'ont pas été catholiques. Ils n'ont pas été conventionnels. Je m'imagine des sacrificateurs qui étaient là en train d'écouter Jésus avec une longue barbe. Il voit là, il entend là-haut quelqu'un en train de défaire toi. Mais qui est ce mec? Mais quand tu marches dans une détermination totale, chaque barrière, tu dois le surmonter. C'est pour ça que Jésus dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Mais à un certain moment de ta vie, il faut que tu te dises, oh, soit je reçois les menaces, soit je meurs. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Bien aimé, ces gens-là ont décidé qu'on ne rentrera pas. Et on trouvera une porte pour que je souffre ce problème. Bien aimé, les miracles appartiennent à ceux qui sont déterminés de recevoir. Quel que soit le vent et marée, je serai ce que Dieu a dit que je serai. Et je ne mourrai pas, je me battrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang, jusqu'à ce que les choses bougent. Mais le monde manque de gens déterminés. Le monde manque de gens décisifs. Le monde manque de gens qui ont la force mentale pour transcender chaque obstacle qu'ils rencontrent sur leur chemin. Mais je te dis une chose, Jésus-Christ ne t'a pas promis un chemin facile, mais il nous a promis à chaque barrière, il sera là et nous transcenderons, mon ami. Le niveau que tu es dans la vie est fonction de tes batailles. Mon ami, qu'on me montre un homme élevé en dignité, je te dirai, il s'est battu et il y est arrivé. Qu'on me montre un homme de Dieu, je te dirai, il s'est battu et il y est arrivé. Bien aimé, l'homme doit être rempli de la détermination. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir. Bien aimé, la détermination créera toute la différence. Il y a des miracles que tu n'auras pas tant que dans ton âme ou dans l'âme des gens qui sont autour de toi, il n'y a pas une détermination inébranlable. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai, mon ami. Je raconterai dans cette génération le sort de l'éternel. Mon ami, tu ne mourras pas, tu vivras. Que quelqu'un soit déterminé aujourd'hui. Mon ami, quand les chrétiens, oh, les gens disent, quand ils viendraient, trouveraient-ils la foi sur la terre? Mon ami, la foi et la détermination marchent ensemble. Mon ami, je tomberai, je me relèverai. Tant que j'aurai le souffle de vie, je tomberai, je me relèverai. Et je continuerai la marche. Que quelqu'un saisisse cette parole ce soir. Bien-aimé, Dieu a fait de nous des conquérants. Dieu a fait de nous des vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous avons en nous une pensée différente. Ces hommes ont dit, on va lever les toits. Mon ami, porter un mec de 70 kilos jusqu'au toit, il faut le faire. Mais laisse-moi t'expliquer. L'homme qui est à l'intérieur de toi est beaucoup plus fort que l'homme qui est à l'extérieur de toi. L'apôtre Paul dit, quand notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Cela veut dire que tu as plus de force dans ton âme que dans tes bras. À condition que tu saches les nourrir, à condition que tu saches l'entretenir. Bien aimé, l'esprit de l'homme te soutient dans la maladie. Si mon ami t'y a affaibli, mon ami nourrit l'intérieur, de là la vie jaillira. Et sois déterminé. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? Dis à ton voisin, je suis déterminé. Dis-lui, je suis déterminé d'accomplir le plan de Dieu, d'accomplir la vision de Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire, les miracles ne se produisent pas quand ce sont tes plans à toi. Mais quand ce que Dieu a dit dans sa parole, elle est pour toi et moi. Ce que Dieu a dit est oui, amen. Est-ce que tu sais que tu ne meurs pas tant que tu acceptes de mourir?
Dans nos pays au bled, il y a des gens qui ont supplié, meurs quand même. On a trop souffert, tu peux mourir maintenant. Mais les gens ne savaient pas que l'homme, c'est le souffle de Dieu qui habite. Tant que cet homme n'a pas décidé de partir, il ne part pas. Alors laisse-moi te dire, tant que tu es décidé d'atteindre un but, tu arriveras à ce but. À chaque porte qui te fermera, une autre s'ouvrira. À chaque porte qui te fermera, une imagination s'élèvera. Mon ami, cela jaillit de l'intérieur. Tu ne peux pas l'expliquer. Et au-dedans de toi, cela donne la vie au bras. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Frère, pourquoi les miracles sont devenus rares? Parce que beaucoup de gens pensent tout simplement que les miracles se produisent sans obstacle. Je serai là et quelque part un homme posera sa main sur moi et à une fraction de seconde ma vie changera. Mon ami, laisse-moi t'expliquer. Dans tous ces exemples, nous avons vu des gens transformer les obstacles en opportunités. Mon ami, laisse-moi te dire, le nombre d'obstacles que tu rencontres, c'est de là que développe ton imagination de changer le désert à un étang d'eau. Et plus tu seras entraîné. David était fort. Pourquoi? Parce qu'il était entraîné à des batailles tout le temps. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? Toutes les fois qu'une bataille s'est levée, David savait qu'il avait la victoire parce que toute sa vie était combat sur combat. À un moment donné, tu vas devenir ceinture noire de la foi. Bien-aimé, quand Dieu m'a donné la parole de la foi, il fallait voir les batailles. Mais laisse-moi te dire, les batailles ne vont jamais te détruire. Bien au contraire, tu peux changer chaque bataille en opportunité pour la gloire de Dieu. Et plus il y a les batailles, plus ton niveau de la foi s'élève. Et plus ta dépendance en Dieu s'élève. Plus ton imagination en Dieu s'élève. Plus la force de l'intérêt s'élève. Et quand Dieu honore la foi, les hommes honorent. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Frère, je vais te dire une chose. Ce soir, le Seigneur veut te dire quelque chose. Que tu t'élèves dans la foi. Et que chaque bataille qui s'élève sur ta vie ne te détruira jamais. Je parle à quelqu'un. Chaque bataille qui s'élève sur ta vie, mon ami, ne te détruira jamais. Je parle à un esprit ouvert dans ces lieux. Chaque bataille qui s'élève dans ta vie ne te détruira jamais. Chaque combat qui s'élève dans ta vie, il y a une porte. Il y a toujours une porte. Peut-être que tes yeux ne peuvent pas les voir, ni les sentir. Mais laisse que ton esprit soit nourri par ce message aujourd'hui. Mon ami, à un moment donné, une imagination viendra de toi, vers toi. Vous savez, il y a un homme qui conduisait une voiture, un camion en plus. Frère, au-dedans de toi, il y a des ressources que tu n'as jamais exploitées. Et que toi, tu dois commencer à exploiter. Ça donnera la vie à chaque fibre de ton corps. Ça ouvrira chaque porte sur ton chemin. Et chaque obstacle, en tout cas, si tu ne peux pas les contrôler, tu vas les sauter. Et cet homme aimait ses enfants. Il avait l'amour de ses enfants. Voilà pourquoi l'amour de Dieu est une force. Et cet homme, il voyageait, il arrive dans un pont. Et parfois au bled, les ponts de bled, le jour où cet homme m'a parlé son témoignage, quand même il ne connaissait pas Jésus, j'ai compris le message. La foi change tout. La foi change tout. Cet homme arrive dans un pont, on lui dit, chef, ce pont là bouge. On n'est pas sûr que ces ponts tiennent. Il dit, mais j'ai des marchandises, j'ai fait quoi? Il dit, il faut faire descendre tout le monde. On fait descendre tout le monde. Mais, frère, même si les gens t'ont porté, ils ont ouvert le toit. Ils t'ont descendu. Mais ce n'est pas eux qui sont descendus. Il était en face de Jésus. Quand les gens te portent, mais aussi ta foi doit s'élever. Quelqu'un peut dire amen. Parce qu'il arrivera un temps où c'est toi seul qui dois y aller. Il arrive un temps où ce n'est même pas les bras de ton frère qui te portera, ce sont tes propres bras. Alléluia. Et cet homme en face de ces ponts, on lui dit, traverse mon gars. Et il sait que les ponts bougent. Il sait que les ponts n'est pas attaché. Et il sait que dans cet endroit-là, chaque camion qui descend là ne sort jamais. Tout le monde traverse à pied. Et toi seul avec ton camion. Mon ami, ta destinée est entre tes mains à un moment.
Et cet homme pense très fort à ses enfants. Mais quand la bataille arrive, pense très très fort à ce que tu aimes. Et c'est pour ça que je parle à quelqu'un, ne fais jamais ce que tu n'aimes pas. Fais exactement ce que tu aimes. Parce que l'amour développe la foi. Et la foi fait jaillir Dieu. Partout où la foi est, Dieu est. Et quand toutes les portes seront fermées, au-dedans de toi, une flamme sera là. Et cette flamme-là viendra de l'amour que tu as. Et cet homme pense à ses enfants parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Si j'étais à sa place, j'allais penser à Dieu. Amen. Il arrive, il dit, je dois vivre. Je ne peux pas laisser mes gosses. Il s'engage dans les ponts. Quand il arrive en plein pont, il sent que le pont arrière a lâché. Et il sait que le pont est en train de flotter. Mon ami, le camion est déjà sur le pont. Il sait que le pont flotte. Et dans quelques secondes, le pont va s'affaisser parce qu'il y a le poids sur le pont. Et quand il sait qu'il est en face du danger, il entend une voix dans l'intérieur. Mon ami, le Saint-Esprit sera toujours là. Si les païens entendent la voix de Dieu, alors les croyants. Et le Saint-Esprit aura toujours la réponse. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit dit, mets la quatrième vitesse, appuie sur l'accélérateur. Il obéit à cette voix de manière machinale. Il met la quatrième vitesse, il appuie sur l'accélérateur, il sort de l'autre côté avec le pont. Quelqu'un peut dire amen. Et quand les gens le voient, il dit, Azando, qui c'est un sorcier. Bien-aimés, les gens vont vous traiter de magiciens. Pourquoi? Parce que vous comprenez les principes qui dirigent la vie. Bien-aimés, au-dedans de toi, il y a une voix. Et quand toutes les voix qui te connecteront à l'Esprit du Seigneur te parlera. Quand tu ne connaîtras pas la route, lui connaît la route. Quand tu ne connaîtras pas quoi faire, lui connaît comment faire. Il a dit, il ne te laissera pas seul. Il t'a donné un consolateur. Appuie-toi sur ce consolateur. À chaque dilemme de ta vie, il sera là. Est-ce qu'on peut s'élever ce soir? Est-ce qu'on peut dire à Dieu merci? Ça t'a béni ce soir? Est-ce que tu as été béni? Si tu as été béni, acclame ton Dieu très très fort. Si quelqu'un a été béni, acclame son Dieu très fort. Bien-aimé, nous allons lever nos mains vers le Seigneur. Bien-aimé, je veux que tu parles sur ta propre vie aujourd'hui. Et que tu déclares au Seigneur, tout ce que tu as prévu pour moi, je vais le voir s'accomplir. Chaque situation difficile sera changée. Chaque barrière sera transformée. Chaque désert se changera en étant d'eau. Chaque montagne s'aplanira. Bien-aimé, je veux que l'église de Dieu lève la voix vers le Seigneur tous ensemble. Et que nous disons à Dieu merci tous ensemble, bien-aimé. Oh Dieu de gloire, bien-aimé. Élevons nos voix vers le Seigneur. Disons à Dieu merci. Disons au Seigneur merci tous ensemble. Disons au Seigneur merci tous ensemble. Disons au Seigneur merci tous ensemble. Élevons nos voix et disons au Seigneur merci tous ensemble. Oh bien, mais élevons nos voix et disons au Seigneur merci tous ensemble. Oh disons au Seigneur merci pour cette parole. Disons au Seigneur merci parce que rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à ceux qui croient. Bien, mais je vais te dire une chose. Rien n'est impossible à Dieu pour toi. Rien n'est impossible dans ta vie. Rien n'est impossible dans tes chemins. Rien n'est impossible. Alléluia. Bien-aimé, élève la voix. Dis au Seigneur merci pour sa parole. Dis au Seigneur merci pour la parole de foi que tu m'as donnée ce soir. Parce que je sais une chose, que je suis capable. Je suis capable. Parce que la Bible dit, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Et tu me fortifieras selon tes promesses. Élève la voix, Seigneur. Dis au Seigneur merci. Alléluia. Oh Dieu Seigneur merci. Alléluia. Dis au Seigneur merci pour sa présence dans ce lieu. Dis au Seigneur merci parce qu'il a choisi cet endroit. Dis au Seigneur merci parce que son nom est dans ce lieu. Dis au Seigneur merci parce cette maison et sa maison. Dis au Seigneur merci parce que ce lieu est une maison de prière pour toutes les nations. Élève la voix vers le Seigneur, dis-lui merci. Alléluia.